Voilà, bonjour à toutes et à tous. Nous allons continuer notre étude dans le livre de Tite. Donc vous pouvez ouvrir votre Bible dans le livre de Tite et nous allons continuer l'étude du passage sur lequel j'ai apporté une prédication la semaine passée déjà. Donc nous allons lire Tite chapitre 1, nous allons relire les versets 5 à 9 et nous étudierons les versets 7, 8 et 9. Kamal, désolé, mais ça siffle un peu pour moi, si tu peux peut-être un peu baisser ça, parce que sinon j'ai peur d'être trop concentré sur ça. Merci. Ouais, c'est bon pour moi, merci Kamal. Tite chapitre 1, nous allons relire ensemble les versets 5 à 9. Je t'ai laissé en Crète, pour que tu achèves de mettre en ordre ce qui est resté en suspens. Et que tu établisses dans chaque ville des responsables dans l'Église en suivant les directives que je t'ai données. Chacun d'eux doit être un homme irréprochable et un mari fidèle à sa femme. Il faut que ses enfants soient dignes de confiance, c'est-à-dire qu'on ne puisse pas les accuser d'inconduite ou d'insoumission. En effet, il est nécessaire qu'un dirigeant d'Église soit irréprochable, puisqu'il a la responsabilité de la famille de Dieu. C'est pourquoi il ne doit être ni imbu de lui-même, ni coléreux, ni buveur, ni querelleur, ni attiré par des gains malhonnêtes. Qu'il soit au contraire hospitalier, ami du bien, réfléchi, juste, saint et maître de lui-même. Qu'il soit fidèlement attaché à la parole certaine qui est conforme à ce qui lui a été enseigné. Ainsi, il sera en mesure d'encourager les autres selon l'enseignement authentique et de réfuter les contradicteurs, ceux qui ne sont pas d'accord, ceux qui contredisent. Voilà pour notre lecture aujourd'hui. Nous avons examiné la semaine passée ce que Paul demande aux dirigeants concernant leur relation avec les personnes du sexe opposé, ainsi que ce qui concerne la discipline dans le foyer, notamment envers les enfants. Mais Paul ne s'arrête pas à ces critères. On les avait déjà lus la semaine passée, on les a relus encore ce matin. On voit que ce n'est pas simplement ces critères pratiques qui suffisent à définir qui peut devenir un responsable dans l'Église, mais on va voir que Paul demande aussi que le responsable de l'Église ait un caractère qui soit transformé par l'Esprit Saint et aussi eh bien, qu'il ait une fidélité irréprochable quant à la parole de Dieu. L'étude de ces aspects du caractère du dirigeant, elle a pour but de nous aider à avoir une vision juste de ce qu'on doit chercher chez de nouveaux responsables, tout aussi en nous aidant à veiller à ce que nos responsables actuels ils soient toujours fidèles à ce que Dieu demande. Donc c'est à la fois, je dirais, une sorte de, un peu de barème pour choisir de nouveaux responsables, mais c'est aussi eh bien, les choses que nous devons considérer concernant les personnes qui sont aujourd'hui responsables déjà dans l'Église pour voir si eh bien, ils correspondent à ce que Dieu attend et éventuellement les encourager dans tel ou tel domaine. Mais Paul nous montre ici qu'il attend des responsables de l'Église, qu'ils aient un caractère transformé par l'Esprit Saint. Au verset 7, Paul va dire « en effet ». Donc c'est une conséquence de ce qu'il y avait au-dessus. Les versets 5, 6 que nous avons étudiés, eh bien ils vont établir quelque chose. Et Paul va dire « en conséquence de cela, voilà ce qui est nécessaire ». Et il dit « en effet, il est nécessaire qu'un dirigeant d'Église soit irréprochable, puisqu'il a la responsabilité de la famille de Dieu ». Le responsable, il doit être irréprochable et Paul dit qu'il ne doit pas pouvoir être accusé de choses manifestement mauvaises parce qu'il a la responsabilité de la famille de Dieu. Il est responsable devant Dieu de l'Église et il est responsable aussi, je dirais, devant le monde pour l'Église. S'il se passait des problèmes avec l'Église ici, je pourrais très bien être convoqué par la police ou devoir être appelé à la mairie pour rendre compte de ce qui aurait pu se passer. Donc le dirigeant doit être irréprochable parce qu'il est responsable de la famille de Dieu. S'il est marié, on avait vu la semaine passée qu'il doit être irréprochable dans la manière dont il vit avec son épouse et aussi dans la manière dont eh bien, il s'occupe de ses enfants et notamment dans la manière dont il va punir et corriger les erreurs manifestes qui pourraient exister pour ses enfants. C'est plus important encore que le fait d'être irréprochable pour sa propre famille. La famille de Dieu, elle a besoin de dirigeants qui sont fidèles à ce que Dieu leur demande. Parce que c'est eux qui ont la charge de cette famille de Dieu. Et cette famille de Dieu, eh bien, ce n'est pas leur famille à eux. C'est la famille de quelqu'un d'autre. C'est la famille qui appartient à Dieu. En tant que dirigeant, dans l'Église, nous veillons sur la famille du Dieu créateur. Cette famille, Dieu nous la confie à nous qui sommes dirigeants dans l'Église. Dieu nous la donne et il demande qu'on s'en occupe bien. Pas bien à notre niveau avec nos critères, mais bien comme Dieu le demande. Dieu confie sa famille spirituelle, il confie ses enfants à des êtres humains imparfaits, mais qui sont pourtant soutenus par Dieu par l'œuvre de l'Esprit-Saint, mais qui doivent être remplis, qui doivent avoir ces caractères définis par Dieu que l'apôtre Paul a transmis. On ne peut pas nommer n'importe qui comme dirigeant dans l'Église parce qu'il représente finalement Dieu aux yeux de l'Église et il représente l'Église devant Dieu. Il est responsable d'une famille qui n'est pas la sienne, qui est encore plus importante d'une certaine manière que sa famille charnelle, c'est la famille de Dieu. C'est Dieu qui lui confie la charge de diriger sa propre famille à lui. Comme il a la responsabilité de la famille de Dieu, le dirigeant doit d'abord bien mener sa propre vie et ses propres relations, notamment dans sa famille. Ce sont les premiers critères que Paul a cités et que nous avons étudiés la semaine passée. Et comme le dirigeant a la responsabilité de la famille de Dieu, eh bien il doit répondre à certains critères pour être un bon représentant de Dieu et un bon représentant de l'Église. Du coup, il répond à certains critères, ce dirigeant, des critères de caractère qui sont nécessaires pour bien représenter Dieu et bien prendre soin des enfants de Dieu. Alors on va les passer en revue les uns les autres. Il y en a certains que j'ai mis ensemble parce qu'ils étaient assez proches. Paul dit tout d'abord qu'il ne doit pas être imbu de lui-même, pas coléreux, pas buveur, pas querelleur, pas attiré par des gains malhonnêtes. Imbu de lui-même. Paul dit que le dirigeant ne doit pas avoir un amour immodéré pour lui-même, d'une façon qui, en fait, le détournerait des autres, d'une manière qui, finalement, l'empêcherait de faire passer l'Église avant lui et qui ferait passer, finalement, son prochain au second plan. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir de l'amour pour nous-mêmes quand nous sommes dirigeants, mais nous ne devons pas avoir plus d'amour pour nous-mêmes que pour les autres, dont Dieu nous a donné la responsabilité. Nous ne devons pas avoir plus d'amour pour nous-mêmes que pour les autres. On ne doit pas avoir non plus un orgueil immodéré qui nous empêcherait de nous mettre au service des autres en tant que responsables. Nous aimons bien être servis souvent. Servir, c'est parfois un peu autre chose. Nous aimons bien être servis, mais servir, c'est parfois autre chose. Mais ici, le responsable d'église, lui, ne doit pas avoir tellement d'amour pour lui qu'il ne désire que être servi et ne jamais vouloir servir. Jésus, le Fils de Dieu, lui, nous a laissé un exemple de service. D'une manière générale, toute sa vie est un exemple de service. Il s'est abaissé pour se faire le serviteur de ceux qu'il était venu sauver. Nous avons aussi en tête cet exemple qui est très pratique, du lavement des pieds, quand Jésus a lavé les pieds de ses disciples un peu avant d'aller à la croix. Mais c'est toute la vie de Jésus qui est un exemple, finalement, de comment est-ce que nous sommes appelés, nous aussi, à être des serviteurs. On est appelés à être tous serviteurs les uns des autres. On est appelés à être tous soumis les uns aux autres. Mais Paul montre que le dirigeant doit l'être d'une manière toute particulière. Parce qu'il a la responsabilité de s'occuper de la famille, parce qu'il doit montrer l'exemple, parce que comme un père doit montrer l'exemple dans sa famille, les dirigeants doivent montrer l'exemple dans la famille de Dieu. Et je serais bien mal placé de vous donner des leçons si moi-même je n'appliquais pas en premier lieu ce que je vous demande d'appliquer à vous aussi. Paul rappelle aux Galates, dans Galates 5, verset 26, que l'Esprit vit en nous et que du coup, nous sommes appelés à le laisser diriger nos vies et ainsi à ne pas être vaniteux, à ne pas nous croire mieux que les autres, à ne pas avoir un amour immodéré pour nous-mêmes. Et un dirigeant qui serait selon les désirs de Paul ici, selon les désirs de Dieu consignés par Paul plutôt, c'est un dirigeant qui aura une vie et un témoignage qui auront un impact sur les chrétiens de son Église. Une des meilleures manières de voir l'Église progresser, c'est de nous-mêmes progresser et changer. Ou en tout cas, si nous avons déjà progressé, déjà avancé, déjà changé dans certains domaines, un moyen d'aider l'Église à progresser, c'est aussi de témoigner de la transformation que Dieu a pu accomplir en nous. Le dirigeant est aussi appelé à ne pas être coléreux, et j'y ai adjoint le terme aussi de querelleur, puisque les deux sont un peu en corrélation. C'est-à-dire que le dirigeant de l'Église est appelé à ne pas se mettre facilement ou rapidement en colère. J'aimerais tout de même noter que se mettre en colère n'est pas essentiellement synonyme de péché. Il peut arriver de se mettre en colère parfois d'une façon qui peut être justifiée. Mais la colère, elle ne doit par contre jamais nous pousser à commettre un péché. On ne doit pas se coucher en colère, on ne doit pas laisser la colère durer, parce qu'on prendrait alors le risque de donner accès au diable et de pécher. C'est Paul qui le dit dans Éphésiens chapitre 4, au verset 26 et 27. Mais en tout cas, la première réaction d'un dirigeant d'église, ça ne doit pas être de se mettre en colère, d'exploser, de chercher les querelles. Le dirigeant d'église est appelé à savoir se maîtriser, à avoir une attitude qui est quand même globalement plutôt calme, pondérée. La colère ne doit pas être sa première façon de répondre aux situations qu'il rencontre. Un dirigeant doit savoir faire preuve de douceur et de maîtrise de soi. C'est aussi une partie du fruit de l'esprit. Il doit avoir du sang-froid. C'est nécessaire pour s'occuper d'une communauté, avec des personnes qui ont parfois des avis différents, parfois un peu différents, parfois diamétralement opposés. C'est important. Personne ne voudrait d'un dirigeant d'église qui explose dès qu'on n'est pas d'accord avec lui, dès qu'on remet en question ce qu'il a pu dire. Le dirigeant ne doit pas non plus être un querelleur, quelqu'un qui cherche les ennuis, qui prend plaisir quand c'est le bazar, quand ça ne va pas. Ça ne doit pas être quelqu'un qui cherche à envenimer les situations. Ça paraît peut-être un peu naturel, hein, on se dirait personne ne va mettre une telle personne finalement comme responsable de l'église. Mais parfois peut-être que certains responsables ont certains traits et pas les autres. L'apôtre Paul met tout ensemble parce que le dirigeant ne doit avoir aucun de ses traits. Et s'il y en a un qui est un trait négatif et tout le reste de positif, ben le trait négatif disqualifie la personne. Il doit avoir un caractère qui n'aime pas les disputes, qui n'y trouve pas de plaisir. Il doit être, pour reprendre les mots que la parole utilise elle-même, il doit être un ouvrier, un artisan de paix. Et Jésus dit « Heureux ceux qui sont artisans de paix, parce que Dieu les reconnaîtra pour ses fils, pour ses enfants. » Le dirigeant, en tout premier lieu, doit conduire l'Église dans la paix. Parce que l'Église, elle ne vivra pas la paix si le dirigeant, sa première réaction, c'est de se mettre en colère, c'est de s'énerver, c'est d'exploser, c'est d'alimenter les querelles plutôt que d'essayer de les apaiser et de régler les conflits. Ça ne veut pas dire, par contre, qu'il faudrait un dirigeant qui fuit les confrontations. Il ne faut pas fuir les confrontations. Parfois, la confrontation, elle est nécessaire, utile, salvatrice. Mais par contre, il ne faut pas se confronter pour tout et pour rien. Et un bon responsable est capable de savoir quand est-ce qu'il est bon de confronter et quand est-ce que ça n'est pas encore nécessaire. Et aussi, comment confronter les choses qui ne vont pas ou les personnes. Paul dit aussi du dirigeant qu'il ne doit pas être un buveur. Ici, Paul vise à montrer que les dirigeants ne doivent pas se laisser dominer par des substances qui pourraient altérer leur conduite, leur jugement, leur comportement ou leur prise de décision. Sans doute qu'à l'époque de l'apôtre Paul, c'était le vin qui était la principale substance qui était capable de changer le comportement. Aujourd'hui, l'apôtre Paul pourrait aussi dire, peut-être, il pourrait y adjoindre, de bien ne pas avoir de dépendance peut-être à la cigarette, à la drogue, à d'autres substances qui pourraient altérer son jugement, son comportement et qui feraient finalement de lui un mauvais représentant pour l'Église et un mauvais représentant de Dieu. C'est Dieu que nous représentons en tant que responsables. Et c'est pour cela que ces traits de caractère sont importants, parce que nous représentons Dieu en tant que responsables. Sans doute qu'il est possible aussi ici de considérer que il y avait peut-être déjà dans l'Église aussi peut-être des problèmes de boisson. On voit dans l'Épître aux Corinthiens que c'est certains problèmes que Paul aborde aussi. Alors peut-être que Paul voulait aussi peut-être prévenir cela. Ce n'est pas certain, mais en tout cas Paul dit que pour celui qui est dirigeant, il ne doit pas se laisser dominer par quelque chose qui l'empêcherait de bien s'occuper de la famille de Dieu. L'alcool en lui-même, je veux quand même le dire, ce n'est pas foncièrement un problème, hein. L'apôtre Paul ne dit pas qu'un dirigeant d'église qui boirait un verre de vin à son repas du midi, le dimanche, par exemple, ou quand il va au restaurant, est disqualifié. Hein. Je veux être précis, mais il y a des dénominations d'église, hein, qui ne veulent pas que leur pasteur boivent d'alcool du tout. J'ai un ami qui est pasteur au Canada, qui a fait ses études dans un institut biblique baptiste aux États-Unis. Pour rentrer dans cet institut biblique, il s'est engagé à ne consommer aucun alcool sur toute la durée de toute sa formation, même pendant ses vacances, même quand il rentrait chez lui. Voilà, il n'en est pas mort, hein. Voilà, mais voilà. C'est pour ça que je veux quand même le noter, parce que parfois, on voudrait peut-être avoir des vues un peu trop strictes, mais l'alcool en soi n'est pas foncièrement un problème. On peut en consommer, hein, mais comme le disent les pubs, il faut le faire avec modération. Cependant, c'est sûr qu'un abus qui est exagéré de l'alcool, ben, c'est souvent aussi accompagné d'autres dépendances. C'est rare d'être que alcoolique. Alors, moi, je m'y connais pas parce que j'ai jamais eu de dépendance de ce type-là, mais vous avez peut-être autour de vous, peut-être même vous-même, un jour, vous avez souffert ces choses-là. Et on sait que quelqu'un qui pourrait être buveur risquerait aussi, après, d'avoir peut-être d'autres dépendances. Et en tout cas, quelqu'un qui serait un buveur invétéré, dirais-je, eh bien, il ne serait pas capable de conduire l'église. Parce que ça empêche de prendre des décisions éclairées, ça empêche d'avoir une vie sainte. Et comme le dit l'apôtre Paul, eh bien, on est appelé à ne pas s'enivrer non plus avec du vin. Mais par contre, on est appelé à se laisser remplir de l'Esprit-Saint. Et pour finir, dans cette première liste de choses que le dirigeant ne doit pas être, il ne doit pas être attiré par des gains qui soient des gains malhonnêtes. Paul pointe ici du doigt le fait que le dirigeant, il doit être capable de tenir bon face à toute tentative de corruption, notamment la corruption financière. Notamment la corruption financière. Paul veut que les dirigeants, quand ils auront à prendre des décisions, eh bien, ils puissent le faire en toute justice, sans aucune contrainte extérieure qui viendrait corrompre leur direction de l'Église. Vous connaissez l'Ancien Testament, mais souvent en Israël, il a été reproché aux dirigeants du peuple, aux enseignants de la loi, d'accepter des pots de vin. On leur donnait de l'argent pour qu'ils prennent une décision favorable envers ceux qui avaient versé de l'argent. Et c'est une des raisons pour lesquelles Dieu a déporté le peuple en exil. Parce que le droit et la justice n'étaient pas assurés en Israël. Parce qu'il y avait des pots de vin, parce qu'on donnait finalement raison aux plus riches et pas à celui qui avait objectivement raison. Et du coup, le Seigneur, il ne veut pas que les dirigeants de son peuple, l'Église, ils se comportent comme ça. Dieu ne veut pas que nous nous laissions influencer par de l'argent ou par toute autre chose dans nos prises de décision. Ça inclut aussi qu'en tant que dirigeant, eh bien, on doit traiter sa famille, ses enfants, son épouse de la même manière que n'importe qui. Parce qu'il n'y a pas des personnes qui seraient soumises à une sorte de justice et puis le reste de l'Église soumis à une autre. On n'a pas le droit de se laisser corrompre, et c'est ce que Paul dit ici. En tout cas, en premier lieu, par de l'argent. C'est peut-être une pratique qui existerait un peu moins maintenant, hein, mais c'était assez courant à l'époque. Mais on pourrait peut-être des fois se laisser influencer par d'autres choses que l'argent. Paul veut que les dirigeants aussi réalisent que leur tâche, elle est d'une importance qui est extrême. Ils ne sont pas là pour profiter de l'Église. Ils ne sont pas là pour dire « Ah oui, moi je suis le pasteur de l'Église » et puis ils ne font rien de leur semaine, personne ne vérifie, personne ne sait ce qu'ils font et à la fin du mois, ils empochent leur salaire. Ça aussi, c'est un gain malhonnête. L'apôtre Paul le dit, tout travail mérite salaire. Mais si on ne travaille pas, est-ce qu'on mérite vraiment son salaire? On n'est pas des piques-assiettes quand on est pasteur. Et je peux vous dire qu'un pasteur sérieux, c'est quelqu'un qui gagne sa croûte pour de vrai. Je ne suis pas en train de faire l'éloge de ma propre personne. Je parle aussi de plein d'autres pasteurs que je connais. Mais un pasteur sérieux, c'est quelqu'un qui ne vole pas le salaire qu'il reçoit. Mais Paul veut que dans l'Église, on comprenne bien qu'on ne va pas mettre comme responsable quelqu'un qui serait un peu tire-au-flanc. Parce que finalement, bon, c'est assez facile de ne pas faire grand-chose quand on est pasteur et que personne ne s'en rende compte. Hein. Je veux dire, moi, Chantal, elle voit ce que je fais ou ce que je ne fais pas, mais vous, vous n'en savez rien d'une certaine manière. D'ailleurs, vous avez le droit de savoir si ça vous intéresse. Moi, je ne suis pas fermé à vous dire ce que je fais dans mes journées. Mais Paul veut que les dirigeants réalisent qu'on ne vient pas là, on met les pieds sous la table, on empoche le salaire à la fin du mois et puis c'est bon. Ça, c'est aussi un gain malhonnête. Le service qu'on rend à l'Éternel, il n'est pas là pour s'enrichir financièrement. Et d'ailleurs, quiconque voudrait devenir pasteur pour devenir riche, bah, c'est raté, hein. On ne devient pas riche. Mais on ne manque de rien. On ne devient pas riche. Mais aujourd'hui, je ne peux pas dire que je manque de quelque chose. Je ne dis pas que j'aurai peut-être pas un jour une autre situation, on n'en sait rien de ce que le Seigneur a prévu pour nous, mais aujourd'hui, je ne manque de rien avec ma famille. On n'est pas là pour s'enrichir, mais on est là pour enrichir l'Église par une direction qui soit juste et qui soit conforme à la parole de Dieu. Et pour finir sur cet attribut-là, une question, mais comment est-ce qu'on pourrait mettre entre les mains d'un dirigeant la bourse de l'Église si on sait qu'il risquerait peut-être d'en détourner une certaine partie? C'est aussi une question qu'il faut se poser. Quelqu'un qui aurait peut-être des difficultés d'argent d'une manière générale, difficulté à gérer son argent, hein, est-ce que ça serait bien aussi de le mettre comme responsable dans l'Église? Parce que s'il n'arrive pas à diriger son propre argent, est-ce qu'il arrivera à le faire avec celui de l'Église? C'est aussi pour ça qu'on a besoin de vos prières dans la gestion des finances de notre Église, parce qu'on veut utiliser d'une manière correcte l'argent que vous donnez pour l'Église et pour le service du Seigneur. Voilà ici tout ce que le dirigeant ne doit pas être. Mais Paul ne s'arrête pas à ce qu'il ne doit pas être. Il va aussi dire, bon, maintenant, vous savez ce que vous ne devez pas être. Mais maintenant, voilà aussi comment il doit être, le dirigeant. Il doit être hospitalier, ami du bien, réfléchi, juste, saint et maître de lui-même. Il doit être hospitalier. L'hospitalité, c'était avant tout une coutume du Moyen-Orient qui était très répandue dans la culture juive et dans les cultures sémitiques de manière assez répandue, c'est-à-dire aussi au travers des populations arabes, par exemple. Et c'est quelque chose qui perdure pas mal encore aujourd'hui, d'ailleurs. Moi, j'avais des amis qui étaient algériens et j'ai des membres de ma famille qui sont marocains. On était extrêmement bien reçus quand on allait chez eux. C'est quelque chose qui perdure encore aujourd'hui. L'hospitalité, dans son sens premier, c'était d'avoir pour but d'accueillir chez soi l'étranger qui avait besoin d'un lieu où dormir ou qui avait besoin de nourriture, qui avait besoin de repos ou de soins. Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose, quand on dit « Ah, telle personne est hospitalière, ben telle personne me reçoit bien quand je vais chez elle ». C'est pas faux, mais au départ, c'était vraiment quelque chose qui était tourné sur l'extérieur, sur les étrangers, sur ceux qui étaient de passage et qui pouvaient avoir besoin d'une certaine aide. On a beaucoup de témoignages, hein, de ce genre de choses-là, mais on peut penser, enfin, en tout cas, j'ai retenu d'une manière particulière le témoignage de celui qu'on appelle souvent le bon samaritain. Alors vous allez me dire, mais il n'accueille personne chez lui, cet homme. Il faudrait savoir ce que tu dis. Hein. Mais je sais ce que je dis quand même, un petit peu. Le samaritain, il va s'occuper de ce juif qui est blessé, ce juif qui est un ennemi de son peuple. Pas quelqu'un qu'il aime bien, hein. C'est facile de prendre soin des gens qu'on aime bien. Il va s'occuper de lui, il va le charger sur son âne, il va lui trouver un lieu pour qu'il puisse se reposer et il va s'engager à payer tous les frais qui seront engagés pour s'occuper de lui. Il dit « Occupe-toi de lui, quand je reviendrai, je payerai ce que ça t'aura coûté. » Il prend soin de cet homme qu'il ne connaît pas. C'est vrai qu'il ne l'accueille pas chez lui, mais il se montre hospitalier dans le sens où il prend soin de cet homme. Et le responsable d'église, eh bien, c'est vrai qu'il est appelé à prendre soin de ceux qui l'entourent. L'hospitalité, elle était peut-être un peu moins répandue dans la culture grecque que dans la culture juive, sans doute, mais Paul indique ça vraiment comme une caractéristique importante du dirigeant. Il doit être prêt, le dirigeant, à accueillir et à prendre soin de ceux qui en auraient besoin. Ça peut être de façon ponctuelle, et puis parfois c'est peut-être d'une façon un peu plus prolongée. On est parfois appelé à aider certaines personnes dans des démarches administratives. Parfois, on est appelé aussi à solliciter l'Église pour un soutien financier pour certaines personnes, etc. Parfois, c'est nous-mêmes aussi, avec nos propres moyens, qui pouvons soutenir certaines personnes. Mais en tout cas, eh bien, le dirigeant doit être prêt à aider ceux qui en ont besoin. Même ceux qu'il connaît peut-être un peu moins ou qu'il aime peut-être un peu moins. Et sans doute que aider ceux qu'on aime un peu moins, ça nous aide à les aimer un peu plus. L'hospitalité aussi pour le dirigeant d'église, je pense, qu'elle entend aussi la capacité à accueillir ceux qui arriveraient dans l'église et qui seraient finalement un peu comme des étrangers. Est-ce qu'on accueille bien ceux qui viennent dans notre église, en tant que dirigeant, premièrement, mais aussi en tant que chrétien qui n'est pas spécialement dirigeant, hein. Comment est-ce qu'on se comporte avec ceux qui sont nouveaux, qui arrivent pour la première fois? Est-ce que le dirigeant sait ouvrir sa porte et recevoir ses frères et ses sœurs chez lui? Est-ce qu'il les accueille bien? Est-ce qu'il prend soin de ceux qui sont dans le besoin? Est-ce qu'il sait se rendre disponible pour ceux qui en ont besoin? Le dirigeant doit aussi être ami du bien. De façon générale, ça veut dire que le dirigeant, il doit avoir une inclinaison, une affection particulière pour ce qui est bien, ce qui est bon. Maxime, je pourrais te demander un verre d'eau, s'il te plaît. Merci. Alors, des fois, c'est un peu compliqué de définir qu'est-ce que ça veut dire, le bien. Et on entend souvent, ah mais un tel, il n'est pas chrétien, mais il fait plein de bien. Le bien, dans un sens biblique, dans ce qui nous intéresse, nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est de vouloir faire ce que Dieu veut, parce qu'on veut lui plaire, et parce qu'on sait que ça lui apportera de la gloire dans ce monde. Faire le bien, c'est faire ce que Dieu veut pour lui plaire et pour que Dieu soit glorifié par nos actions. Merci Maxime. Faire le bien, je répète aussi pour ceux qui notent, c'est vouloir faire ce que Dieu veut parce qu'on veut lui plaire et parce qu'on veut qu'il soit glorifié. C'est pour ça que oui, il y a certaines personnes qui ne connaissent pas le Seigneur qui font des choses bien, mais ce n'est pas le bien au sens biblique. Alors, ça mériterait une étude tout entière. Hein. Tout mériterait une étude tout entière dans la parole, de toute façon. Mais c'est ça que le dirigeant doit rechercher dans sa tâche de dirigeant, mais aussi dans sa vie de tous les jours, dans sa vie de chrétien, je dirais, normal. Hein, on avait François Hollande qui disait qu'il voulait être un président normal. Bien, quand on est un dirigeant, c'est vrai dirigeant, mais on est chrétien avant tout. On est enfant de Dieu avant tout et on doit être ami du bien. On doit aimer ce qui est bien. On doit rechercher, on doit rechercher à faire ce que Dieu veut pour qu'il soit glorifié. Le dirigeant doit chercher à glorifier Dieu dans sa vie pour encourager les autres à faire de même. Si vous me voyez rien faire de bien, vous me diriez c'est un peu du pipeau quand il se présente et qu'il nous dit de faire les choses bien. Il ne nous accueille jamais chez lui. Et ce serait un peu du pipeau de nous dire qu'il faut qu'on soit hospitalier, etc. Vous voyez l'idée, hein. Et je crois que le psaume 1 décrit bien un homme qui est ami du bien. Je le relis simplement rapidement avec vous, vous le connaissez, j'espère. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en la compagnie de ces gens qui se moquent de Dieu. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre implanté près d'un cours d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert, tout ce qu'il fait réussit. On ne peut pas se dire ami du bien et passer son temps avec les gens qui sont des gens mauvais. Et surtout, on ne peut pas se dire ami du bien et prendre plaisir avec ceux qui ne sont pas amis du bien. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut avoir aucune relation avec les incroyants. Ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas se mettre dans des situations avec des incroyants qui se moquent de Dieu et qui nous pousseraient, nous, à nous corrompre et du coup à devenir de mauvais représentants de Dieu et de l'Église. Le dirigeant doit aussi être réfléchi. Il doit être un homme sage, un homme qui prend le temps de la prière et de la réflexion, quelqu'un qui n'agit pas sur un coup de tête ou sur un coup de sang. Il doit être quelqu'un qui prend le temps de chercher dans la lecture et dans la méditation de la parole, les bonnes solutions quant aux situations qui se présentent devant lui, pour lui et pour l'Église. Il doit avoir une certaine logique dans sa façon de faire les choses. Pour les membres de l'Église, il faut que ce soit visible qu'il fait les choses d'une manière logique, qu'on n'ait pas l'impression, désolé pour l'image que je vais employer, mais vu que je suis aussi dirigeant de l'Église, ça me concerne, mais il ne faut pas que les chrétiens qui sont dans l'Église aient l'impression que leur dirigeant, même au pluriel on peut dire, hein, soient des poulets sans tête, qui courent dans tous les sens, n'importe comment, qui font n'importe quoi et qui dans deux situations similaires vont faire plein de choses diamétralement opposées. Les solutions ne sont pas toujours toutes écrites dans le marbre, hein, parfois il faut changer un peu des choses, ça dépend des personnes, etc. Mais en tout cas, il faut qu'on se rende compte qu'il y a une réflexion derrière les prises de décision, derrière la direction, qu'on ne fait pas les choses n'importe comment. Et si parfois, peut-être, ça n'apparaît pas clairement, bah vous avez aussi la liberté de rencontrer vos responsables pour leur demander. Il ne faut pas vous en priver. Il ne doit pas agir de façon simplement spontanée, en suivant seulement ses émotions, mais sans prendre le temps de la réflexion. Parfois, on glorifie un peu la spontanéité, comme si c'était la preuve que c'est bien. Pierre a coupé l'oreille d'un soldat dans le jardin de Gethsémané, hein, c'était très spontané. Je ne suis pas certain qu'on puisse dire bibliquement que c'était une bonne idée. Mais alors c'est vrai, des fois, nos émotions rentrent en jeu aussi, et on apprend aussi avec l'aide du Seigneur à les gérer. Mais on ne doit pas simplement rechercher des gens qui sont spontanés. La réflexion, l'étude, la prière, la conduite du Saint-Esprit. C'est des choses qui doivent être qualificatives d'un dirigeant. Et le dirigeant doit aussi être juste. Ici, Paul ne parle pas de la justice au sens du salut. C'est logique. Je le dis quand même, mais c'est logique. Forcément, un dirigeant d'église, c'est quelqu'un qui est juste aux yeux de Dieu parce qu'il a été sauvé par le Christ. Lorsque Paul dit que le dirigeant il doit être juste, il parle de sa façon de porter des jugements. Il doit être juste dans ses jugements, le dirigeant d'église. Les dirigeants de l'église doivent être justes dans leurs jugements. Le dirigeant doit se comporter d'une façon juste vis-à-vis de la parole de Dieu et des chrétiens, dont l'église dont il a la charge. Il ne doit pas y avoir, si vous voulez, deux poids, deux mesures. Chacun doit être traité de la même façon, quelle que soit la relation qu'il entretient avec le dirigeant. Paul a écrit ceci à Timothée, dans 1 Timothée, chapitre 5, versets 19 à 21. Paul lui a dit « N'accepte pas d'accusation contre un responsable d'église si elle n'est pas appuyée par deux ou trois témoins. Ceux qui ont péché, là il parle sans doute des responsables d'église qui auraient pu pécher. Ceux qui ont péché, reprends-les devant tous afin que cela inspire de la crainte aux autres. Je te conjure solennellement devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant ses anges élus, d'observer ces règles sans parti pris ni favoritisme. Et si c'est vrai pour ce qui concerne les dirigeants, c'est aussi vrai pour les chrétiens qui ne sont pas des dirigeants dans l'Église. On n'a pas le droit, en tant que dirigeant, de traiter certains d'une manière et d'autres d'une autre. On n'est pas juste si on fait ça. Et si quelqu'un favorise certaines personnes pour des raisons X ou Y et qui défavorise, ou qu'en tout cas, il se contente d'être juste, entre guillemets, ça ne va pas. Tout le monde doit être jugé de la même manière. On ne favorise personne. On n'a pas le droit de favoriser quelqu'un parce qu'on aime bien, parce qu'on est proche ou quoi que ce soit. On doit être juste. Pas de parti pris de la part des responsables. Tout le monde doit être jugé de la même manière. Et si un jour vous aviez l'impression que moi ou une autre personne responsable dans l'église avec moi, si vous avez l'impression qu'on ne vous juge pas d'une manière juste, venez nous voir et dites-le. Dites-le nous. Restez pas avec un sentiment d'injustice. Ne restez pas avec un sentiment d'injustice. Venez nous voir. Il est aussi demandé aux dirigeants d'être un homme saint. Bien entendu, là aussi, Paul... il ne parle pas de saint dans le sens de converti, parce que c'est logique que de toute façon, on ne va pas mettre, pour représenter Dieu devant l'Église et l'Église devant Dieu, on ne va pas mettre quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Mais c'est plutôt d'être converti, mais dans le sens d'être plein de l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui fait de nous des personnes saintes. Et on grandit dans cette sainteté, dans la sanctification, en ce que le Saint-Esprit applique en nous une transformation dans nos paroles, dans nos actes, dans nos pensées, qui tend à nous faire ressembler toujours plus à Christ. Du coup, quand Paul demande que le dirigeant soit saint, il demande que ce soit quelqu'un qui soit plein de l'Esprit de Dieu, qui progresse aussi dans sa propre sanctification. Paul attend que les dirigeants soient conduits par l'Esprit et que ça se voit dans leurs décisions. Il ne faut pas, on l'a dit, qu'il y ait quoi que ce soit dans la vie des dirigeants qui permettent de les accuser. Rien de manifeste qui disqualifierait. Et en ce sens-là, il faut qu'ils soient effectivement conduits par l'Esprit Saint, d'une manière à ce que tout ce qui pourrait empêcher disparaisse. Paul y demandait déjà ça, quant à la relation avec les femmes et les enfants, mais c'est en réalité une attente qui est dans toute la vie du dirigeant, dans tous les domaines. Dans tous les domaines, le dirigeant doit être saint, rempli du Saint-Esprit, guidé par l'Esprit, et du coup, être irréprochable dans sa propre vie. Et pour finir, il doit être maître de lui-même. Contrairement aux coléreux et aux querelleurs, le dirigeant, il est appelé à avoir une pleine maîtrise de lui-même, à ne pas se laisser emporter avec passion par ses sentiments. Il est appelé à être plein de maîtrise, comme le dit Paul aux Galates. Comment un responsable réagit-il à ceux qui ne partagent pas le même avis que lui? Sait-il garder son calme, même dans les moments de tension? Est-ce qu'il prend des décisions sur un coup de tête? Est-ce qu'il sait garder une certaine contenance, même lorsqu'il peut se sentir pris au piège ou parfois peut-être un peu dépassé? Ce sont des caractères qu'il faut pouvoir discerner. Et je crois que ça nous montre aussi que pour faire un tel choix, eh bien, on a besoin de bien connaître les gens dont on souhaite qu'ils deviennent nos responsables. Et ça ne se fait pas en deux temps trois mouvements. Ça prend du temps de se connaître. Ça demande aussi des périodes d'apprentissage pour vérifier, entre guillemets, comment la personne se comporte. Et comme je le disais la dernière fois, on ne va pas dire on te met responsable et quand tu seras responsable, tu vas changer. L'apôtre Paul, il dit pour que les gens deviennent responsables, pour qu'un homme devienne responsable dans l'Église, il doit déjà être comme ça. Et si quelqu'un n'est pas comme ça, alors on n'en fait pas de lui un dirigeant. Les attentes qui sont communiquées ici par Paul, ces attentes qui viennent de Dieu, elles peuvent sembler très élevées. Et d'une certaine manière, elles le sont. Parce que quand on est dirigeant, on s'occupe de la famille de Dieu. Et c'est normal que Dieu ne confie pas sa famille à n'importe qui. Chantal et moi, on ne confierait pas Zoé à n'importe qui. Alors, si on vous la confie, c'est qu'on a une certaine confiance en vous. Mais Dieu ne veut pas non plus donner son Église à n'importe qui. Il ne veut pas la confier à n'importe qui parce qu'il ne veut pas qu'il s'y fasse n'importe quoi et qu'elle devienne n'importe quoi. C'est bon de rappeler que la majorité de ces attentes qui ont été présentées par Paul, ben, elles sont en fait le fruit de l'Esprit. J'ai cité quelques fois de manière explicite l'Épître aux Galates, notamment chapitre 5, verset 22, qui est le fruit de l'Esprit. Et j'insiste sur la traduction, c'est le fruit de l'Esprit, pas les fruits de l'Esprit. Ça veut dire qu'on est appelé à avoir tous les traits de caractère de Galates 5, 22, pas juste certains. Ce n'est pas plusieurs fruits d'un même arbre, c'est un seul fruit avec toutes ses parties. Elles viennent, ces caractéristiques-là, de l'Esprit Saint, de l'Esprit de Dieu. Et je le dis à la fois pour nous encourager quant à la possibilité d'être un dirigeant ou d'avoir des dirigeants selon le cœur de Dieu. On doit être encouragé parce que le Seigneur, par son Esprit Saint, peut transformer notre caractère pour que, si aujourd'hui on n'est peut-être pas qualifiable pour être responsable, pour qu'un jour peut-être on le devienne. Et que si on se dit aujourd'hui, ah ben peut-être personne remplit vraiment ces critères, ben on peut se dire c'est pas grave, parce qu'en fait le Saint-Esprit peut transformer une personne pour qu'un jour elle ait ces critères-là. Et c'est pour ça que je le mets en lien avec le fruit de l'Esprit de Galates 5, parce que c'est l'Esprit qui peut produire ces choses-là en nous. Si Paul dit que le fruit de l'Esprit c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi, alors nous devons croire que Dieu nous donnera des dirigeants qui seront animés de cette façon-là par l'Esprit de Dieu. Et justement, si ça vient de l'Esprit de Dieu, et c'est peut-être une des choses les plus importantes que vous pouvez garder de ce message, gardez le reste aussi si vous voulez, mais gardez ça, c'est que le fait que ça vienne de Dieu lui-même, ça doit nous aider à ne pas abaisser les critères que Dieu donne. Si Dieu a demandé ça et que lui, il est capable de le produire, alors on ne devrait pas dire « on n'a personne comme ça, donc on va prendre quelqu'un d'un peu moins bien ». Non, on va demander à Dieu de transformer des personnes pour qu'elles puissent devenir responsables. Si ça vient de Dieu, si Dieu a demandé ses caractères à certaines personnes, il est capable de les donner à des personnes qui deviendront nos dirigeants. C'est possible. Il ne faut jamais baisser les caractéristiques. Et Paul dit aussi, ben, finalement, ce n'est pas tout. Hein. Il ne suffit pas juste d'être un gars bien, entre guillemets. Hein. Il faut aussi être quelqu'un qui a une fidélité irréprochable quant à la parole de Dieu. Le côté humain, ça rentre souvent très vite en ligne de compte quand on veut se choisir des dirigeants. Parce que déjà, on a envie d'avoir des dirigeants qu'on aime bien, parce que c'est plus simple. Et puis, on a envie d'avoir des dirigeants qui nous caressent les oreilles. J'entends qui disent des choses qui nous plaisent. Parce que ne vous attendez pas à ce qu'un de vos dirigeants vienne vous caresser les oreilles. Et des fois, on oublie un peu qu'il faut aussi un critère d'irréprochabilité par rapport à la fidélité à la parole. Au-delà des qualités purement humaines, entre guillemets, même si on a vu qu'elles sont transformées par l'Esprit de Dieu, Paul recommande quelque chose de la plus grande importance. Le responsable d'Église, il doit être fidèlement attaché à la parole des apôtres, à la Bible. Il doit être fidèlement attaché à la parole certaine. Le dirigeant qui est appelé à prêcher, il doit demeurer attaché, accroché avec une grande fidélité à la parole de Dieu, que Paul qualifie de parole certaine. Il n'y a pas de doute sur la parole de Dieu. Et quelqu'un qui douterait de la parole de Dieu, qui la tordrait, qui la transformerait, il n'est pas qualifiable. Et même il est disqualifiable, si jamais c'est quelqu'un qui est déjà en place, de sa tâche de responsable. La parole de Dieu est certaine. Elle ne change pas avec le temps et elle ne change pas avec les situations. Paul montre ici que le dirigeant, il doit bien entendu croire que la Bible, elle est inspirée divinement, et aussi qu'elle est sans erreur, parce que bon, si on se met à dire qu'il y a des erreurs dans la Bible, on ne va pas pouvoir lui faire confiance. Et effectivement, un dirigeant d'église, il doit être certain qu'elle est inspirée par Dieu et sans erreur. Et le terme que Paul y reprend en grec, c'est l'idée de faire allégeance à la parole de Dieu. C'est l'idée de reconnaître dans la parole de Dieu un maître, celui à qui je m'attache de tout mon cœur. On faisait allégeance à un souverain avant. Eh bien, on fait allégeance aussi en tant que responsable à la parole de Dieu. On se soumet à elle. Ce n'est pas nous qui soumettons la parole, c'est nous qui nous soumettons à elle. Le dirigeant doit rester fidèlement attaché à la parole de Dieu, sans s'en écarter ni à droite ni à gauche. Il ne doit pas se laisser ébranler par les faux enseignants ou les faux enseignements et remettre sans cesse en question la parole et ce qui lui a été enseigné. Le dirigeant doit croire fermement à ce que dit la parole parce qu'il sera appelé lui-même à dénoncer l'erreur. Et quelqu'un qui se laisserait ébranler par des faux enseignements et qui n'arriverait pas à tenir ferme par rapport à la vérité de la parole révélée, eh bien, il n'arrivera pas à, je dirais, à défendre la vérité et à disqualifier l'erreur, parce qu'il sera lui-même trop gêné dans son cœur pour savoir ce qui est vrai ou pas. Celui qui se laisserait ébranler et qui ne saurait pas faire face aux contradicteurs, il ne devrait pas être ou rester responsable. Si quelqu'un s'éloigne de la parole certaine qui a été transmise par les apôtres, alors, eh bien, il ne devrait pas continuer d'être un dirigeant. Et je dirais que les premiers qui devraient le faire savoir, c'est vous. C'est vous. Parce que c'est de vous dont nous avons la charge. Et s'il vous apparaît à un moment qu'un de vos dirigeants, que ce soit moi ou n'importe lequel autre, commencerait à dévier ou ne combattrait pas l'erreur, eh bien vous devez le faire savoir. Vous devez le faire savoir. Vous devez aussi veiller sur nous. Nous veillons sur vous, mais vous êtes aussi appelés à veiller sur nous. Il doit rester attaché, le dirigeant, à cette parole qui est conforme à ce qui lui a été enseigné. Le dirigeant d'église, il doit rester attaché à cette parole qui est certaine. Elle a été consignée dans les Écritures parce qu'elle est conforme, et elle est conforme, cette parole, à ce qui a été enseigné. Cette parole sur laquelle le dirigeant il va s'appuyer, eh bien, elle est vraie, elle vient de Dieu, et l'enseignement qui est donné, il doit être conforme à ce qui a été enseigné sur la base de la parole de Dieu. Jésus a révélé aux apôtres des choses, il leur a laissé certaines choses, Dieu a révélé ensuite pour la rédaction notamment des Épîtres et de l'Apocalypse des choses. Eh bien, ce que le dirigeant prêche, ça doit être conforme à ça. Et si ça n'est pas conforme à ça, alors il ne doit plus prêcher. Et il ne doit sans doute aussi plus être dirigeant. On ne doit pas s'arranger et trouver des excuses. Ah, peut-être il a voulu dire ça, ou peut-être ceci, ou peut-être cela. Effectivement, peut-être il y a eu une mauvaise expression. Du coup, on va le voir, on lui demande, on parle avec. Mais s'il y a des choses qui sont manifestes, eh bien, il ne faut pas passer par-dessus. Le responsable a reçu un enseignement qui est juste, qui est vrai sur la base de la parole, et il doit continuer à partager cet enseignement avec ceux dont il a la charge. Paul refuse catégoriquement qu'un enseignant, qui prêcherait autre chose que la vérité biblique qui lui a été précédemment fidèlement enseignée puisse diriger l'Église. Quelqu'un qui aurait reçu un bon enseignement, un enseignement vrai, véritable, fidèle, quelqu'un qui aurait été formé avec la vérité de la parole, mais qui aujourd'hui n'enseignerait plus la vérité, eh bien il ne doit pas enseigner et il ne doit pas être un dirigeant. Et si jamais on se rend compte que l'enseignement que le dirigeant il a reçu jusque-là, à l'instant T, si on se rend compte que ça semble insuffisant pour qu'il puisse prêcher, ou si on a l'impression que ses prédications elles comportent des erreurs qui sont grossières, ben c'est pas idiot d'envisager un temps de formation pour cette personne. C'est pas idiot d'envisager la possibilité de corriger l'erreur, tout en ne donnant plus accès à la chair pendant un moment à la personne, parce que elle est responsable de transmettre la parole de Dieu. Et quelqu'un qui ne transmettrait plus la parole de Dieu ne peut pas prendre la parole devant l'Église. Bien entendu, en disant ça, je considère que la grande majorité des personnes qui prêchent, pas simplement chez nous, mais aussi dans les églises d'une manière générale, sont des gens qui enseignent la vérité. Ces choses-là, ça doit être des choses qui restent des choses minimes dans la vie d'une église. Mais si ça venait à arriver, l'Église doit prendre des dispositions pour peut-être aider ce dirigeant à être mieux équipé et mieux préparé à remplir sa tâche. Et ce n'est pas du tout un aveu de faiblesse de dire « j'ai besoin d'être formé ». Dans votre travail, ça ne vous gêne pas qu'on vous dise que vous devez vous former pour progresser. Pourquoi est-ce qu'il devrait en être différemment dans l'Église ? Au contraire, c'est dans l'Église, dans le service à Dieu, qu'on devrait être le plus prompt à vouloir acquérir de meilleures connaissances, des connaissances nouvelles et plus éclairées. Parce que c'est bien plus important que le travail qu'on fournit à notre travail tous les jours. Une telle formation pour un dirigeant, elle pourrait se faire soit dans le cadre de l'Église, par le pasteur éventuellement, soit aussi dans un institut de formation si c'est nécessaire. Mais il faut rappeler que la bonne volonté ou le dynamisme qui sont mis dans la prédication, ils ne suffisent pas à nous qualifier. On peut se tromper alors qu'on souhaite vraiment être juste et fidèle. Mais on peut se tromper parce qu'on n'a peut-être pas eu les bons enseignements ou alors qu'il y a peut-être encore des choses qu'on a besoin d'acquérir et de comprendre. Et ça n'est jamais une honte de le reconnaître. Moi, je suis allé à l'Institut biblique, alors je ne suis pas un modèle, un exemple, le meilleur homme qui soit, mais j'y suis allé parce que je me suis rendu compte que je n'arrivais plus à aider les jeunes de mon groupe de jeunes parce que j'étais trop limité dans ma connaissance. J'étais trop limité. Et ce n'est pas une honte. Ce n'est pas honteux d'avoir besoin de se former, de vouloir se former. Et ce n'est pas honteux pour un dirigeant qui verrait ses limites de dire « ben là, je vais peut-être prendre du recul et puis je vais me former mieux pour être plus pertinent dans mon service. » Il doit être en mesure aussi, le dirigeant, de pouvoir être en accord avec les autres personnes qui dirigent avec lui. Paul y laisse entrevoir quand même que la direction de l'Église, elle ne permet pas une grande disparité en termes d'enseignement. Certains points peuvent supporter des différences, c'est vrai. Mais par contre, certains points ne sont absolument pas négociables. Absolument pas. Et Paul, il attend donc qu'il y ait quand même une unité doctrinale dans la conduite de l'Église, parce que trop de différences sur des éléments fondamentaux, ça serait contre-productif pour l'Église. Et le dirigeant doit être aussi en mesure d'encourager les autres et de réfuter les contradicteurs. Et c'est important parce que, comme Paul le dit au verset 10, « car » c'est la conséquence de ce qu'il est en train de dire et qu'on est en train d'étudier. Il faut qu'il soit comme ceci, le dirigeant, « car nombreux sont ceux qui refuseront de se soumettre, qui refusent de se soumettre à la vérité. » L'apôtre Paul dit « il faut qu'il y ait toutes ces caractéristiques morales et tout » ces caractéristiques par rapport à la parole, parce qu'il y en a qui refusent de se soumettre à la vérité. Et pour qu'on puisse les reprendre et les enseigner, il faut être soi-même solide. Paul attend des dirigeants un véritable attachement, une conviction inébranlable dans la parole révélée et dans son autorité. Paul attend que les dirigeants y soient fidèles dans leur enseignement par rapport à la parole, pour que ceux qui auront été enseignés puissent aussi un jour devenir des dirigeants fidèles par la suite. Si moi, avec les autres responsables de l'Église, on vous enseigne bien, un jour, certains d'entre vous deviendront dirigeants, ici ou ailleurs, et si c'est ailleurs, c'est bien aussi. Et ils pourront dire, j'ai été bien formé, bien enseigné, et c'est ça qui me permet aujourd'hui d'être moi-même responsable, et du coup, de moi-même, bien enseigner les autres. C'est important, on doit penser aussi à la relève. Et quand j'enseigne, je pense aussi à cela. Je veux donner aussi un enseignement juste et véridique pour qu'un jour d'autres puissent s'appuyer sur ça, pour eux-mêmes enseigner l'Église. Par son enseignement, le dirigeant il doit être capable d'encourager les autres à rester attachés à la vérité. Et c'est pour ça qu'il doit être sûr et certain lui-même de ce qu'est la vérité. Parce que quelqu'un qui remettrait toujours tout en question, ça serait compliqué pour lui de dire aux autres ce qu'est la vérité pour la défendre. Il doit rester attaché à la vérité. Il doit être capable de présenter la vérité et d'inviter ses auditeurs à s'y attacher et à s'y conformer pour vivre une vie sainte, c'est-à-dire une vie en accord avec la volonté de Dieu et qui reflète la personne de Christ. Le dirigeant, il doit être capable d'exposer la vérité sans détour, de transmettre le message de vérité de la parole de Dieu. Il doit être capable d'exposer tout le conseil de Dieu. On n'est pas non plus simplement dirigeant avec... on a une passion pour tel thème de la parole et on ne prêche que sur ça tout le temps. Un bon dirigeant, c'est quelqu'un qui est capable de prêcher sur tout, même sur ce qui ne lui parle pas spécialement. Parce que ce qui compte, c'est que le sens, il est contenu dans la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui contient son propre sens. Ce n'est pas parce qu'un texte me parle que j'ai des choses à dire dessus. Le texte parle toujours à celui qui veut bien se mettre à l'écoute du texte. toujours, toujours, toujours. Et vous savez, je l'ai vécu. Quand j'ai fait mes études, on avait... Excusez-moi. On avait des cours de prédication et on avait des sermons d'épreuve, entre guillemets. C'est des petites prédications. Et on nous donnait le texte. Et un jour, quelqu'un a dit « Ah ouais, mais moi, ça ne me parle pas. » Et mon prof lui a dit « Je m'en fiche que ça ne te parle pas. Mon problème, ce n'est pas que ça te parle. Mon problème, c'est que tu apprennes à écouter. » Parce que ce n'est pas parce que tu vas, toi, trouver que ce texte-là, machin, il est mieux. Non, ce n'est pas ça qui fait que tu vas le prêcher. Tu vas le prêcher parce que tu sais qu'il veut dire quelque chose, parce que Dieu lui a donné un sens. Tu dois trouver le sens du message et tu dois le porter aux autres. Moi, il y a des choses que j'aime mieux prêcher dans la parole, c'est vrai, qui réveillent en moi une passion particulière. Mais je ne peux pas prêcher que ça tout le temps. Je dois prêcher tout le conseil de Dieu. Et un bon dirigeant, c'est aussi quelqu'un qui sait prêcher tout le conseil de Dieu. C'est quelqu'un qui sait prêcher et exposer toute la parole, pas juste ce qu'il aime bien. Et pas juste à sa manière. Il doit être capable de la comprendre et de l'appliquer à la vie d'aujourd'hui. Vous avez remarqué que j'essaye toujours de vous donner des applications pratiques. Parce que c'est bien d'avoir une grosse tête pleine de données bibliques. Mais si ça ne descend pas jusqu'à votre cœur, à notre cœur, et si ça ne transforme pas notre manière de vivre, c'est du pipeau et ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Du coup, un bon prédicateur, c'est aussi celui qui est capable, un bon dirigeant, c'est celui qui est capable de dire voilà la parole, voilà ce qu'elle voulait dire, voilà comment ça nous concerne, voilà comment, c'est des pistes de réflexion, hein, on n'a pas toute la vérité de la manière dont ça peut s'appliquer à une vie, mais voilà comment vous pouvez réfléchir à une application concrète de cette chose-là, de ce texte, de cette vérité pour vous. Et un bon prédicateur, un bon enseignant, c'est quelqu'un qui est capable de faire ça. La prédication, elle doit être source d'encouragement. Encouragement pour l'attachement à la vérité, mais aussi un encouragement pour nous donner toujours plus envie de marcher selon la volonté de Dieu. Elle doit nous pousser vers l'avant et elle doit être empreinte de la grâce et de l'amour de Dieu. Mais le dirigeant, il doit aussi savoir, par la même parole, par la même autorité, réfuter les contradicteurs, ceux qui contredisent, ceux qui ne sont pas d'accord, ceux qui proclament une vérité qui n'est pas la vérité de la parole. Le bon dirigeant, c'est celui qui est capable d'exposer les erreurs de ceux qui s'opposent à la vérité. Mais pour ça, et je le redis encore, il faut lui-même qu'il soit fermement établi sur ce qu'est la vérité. C'est une qualification nécessaire sur laquelle on ne peut pas faire de concession. Le verset 10, il exprime, et je l'ai lu avec vous avant, il exprime vraiment cette nécessité. Non, car nombreux sont ceux qui refusent de se soumettre à la vérité. Il y a des gens qui ne veulent pas consciemment de la vérité. Ils refusent. Refuser, c'est une prise de décision. Des fois, je demande à Zoé de faire quelque chose, elle dit non, elle refuse. Ça tombe pas du ciel hein, qu'elle ne veuille pas. Hein. C'est elle qui ne veut pas, et quand elle ne veut pas, elle ne veut pas. Hein. Et je peux vous dire que, toute petite qu'elle est, elle a déjà une sacrée énergie. Hein. Mais Paul dit, il y a des gens qui ne veulent pas de la vérité. Pour tenir tête à ceux qui ne veulent pas volontairement de la vérité, il faut quelqu'un qui la connaisse, qui l'aime, qui s'y tient attaché et qui est capable de l'enseigner. C'est nécessaire et on ne devrait jamais passer sur ça. C'est sûr que la première chose qu'on imagine, c'est pas notre église, elle va commencer à foirer dans la prédication et puis on va commencer à enseigner des mensonges et tout. Mais quand le mensonge vient, on doit être capable de le dénoncer, de le montrer et de dire pourquoi c'est faux et de tenir ferme dans la vérité, quels que soient les courants contraires ou les vents contraires. Bien sûr, comme je le disais aussi avant, la majeure partie de ce qu'on vit dans nos églises, c'est conforme à ce que Dieu veut, et heureusement. Mais s'il arrive que ça ne le soit pas, les dirigeants doivent être capables de prendre position par rapport à ça. Et Paul dit que le dirigeant, il doit vraiment savoir refuser, exposer l'erreur et y opposer la vérité pour fermer la bouche de ceux qui bouleversent des familles entières. Le dirigeant ne doit avoir aucun doute sur la vérité biblique et il ne doit pas se laisser lui-même ébranler par les faux enseignants. S'il se laisse ébranler et détourner, il risque de corrompre son enseignement et d'être disqualifié dans sa tâche de prédicateur et de dirigeant. Et tout comme c'était vrai pour les traits de caractère, eh bien tout cet attachement, cet attachement à la vérité, la capacité à dénoncer ce qui est faux, à dire ce qui est vrai, à encourager, à reprendre, à exhorter, à discipliner, c'est aussi des choses que le Seigneur nourrit par son Saint-Esprit. Mais c'est des choses qu'on doit voir chez quelqu'un qu'on veut comme un dirigeant. Et c'est quelqu'un qu'on doit voir chez ceux qui sont aujourd'hui nos dirigeants. Et si un jour, il me manque un de ces traits-là, vous ne devez pas passer par-dessus. Surtout pas. Surtout pas. Surtout pas. Si vous trouvez qu'à un moment, je ne suis plus dans ces choses-là, que je n'ai plus un caractère, un comportement ou une prédication qui soit fidèle à ce qui est ici, vous devez le faire savoir. C'est votre responsabilité. Je suis votre enseignant, mais vous avez le droit de me dire si vous trouvez qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et éventuellement même, vous avez le droit de le dire à notre union d'église. Parce que c'est la vérité de l'évangile qui compte. C'est la croissance de l'église qui compte. C'est pas le copinage, c'est pas que vous m'aimiez bien ou pas. Et vous aurez plus d'amour pour moi en me disant que je me trompe, plutôt qu'en me laissant me tromper. Et je vous le demande vraiment aujourd'hui, si un jour je dévie de ces choses-là, dites-le-moi. Ne me laissez pas dévier. Ne me laissez pas me tromper. Ne me laissez pas me tromper. En conclusion, aujourd'hui, j'aimerais vous donner 3 sujets de prière. Ils sont importants. Ils ne sont pas juste pour cette semaine. Ils ne sont pas juste pour ce mois-ci ou pour cette année. Ils sont pour tout le reste de votre vie sur cette terre, parce que vous serez peut-être toujours ici, peut-être qu'un jour vous serez dans une autre église, peut-être un jour dans un autre pays ou quoi que ce soit. Je ne vais pas dire une autre planète, parce que la colonisation de Mars ou de la Lune, ce n'est pas pour demain. Mais ce n'est pas juste pour aujourd'hui, pour ce soir. Et puis j'ai fait ma prière ce soir, c'est bien, Blaise, il est content, j'ai fait ce qu'il m'a dit. Moi, de toute façon, je ne sais pas si vous le faites ou pas. Mais voilà ce que j'aimerais nous encourager tous à prier. Prions pour que le caractère des dirigeants qui est décrit dans ce passage, qui puisse grandir toujours plus en nous qui vous dirigeons. Que le Seigneur, par son Esprit Saint, y fasse grandir ce caractère en nous. On en a besoin. Être dirigeant, ce n'est pas une tâche facile. Ce n'est pas la croix et la bannière. Hein. On n'est pas dans une souffrance d'être dirigeant, mais ce n'est pas une tâche aisée. Et si vous êtes peut-être chef d'équipe dans votre travail ou autre, vous savez ce que c'est de devoir diriger des gens. C'est encore différent dans l'Église. En certains aspects, c'est parfois plus simple. En certains aspects, c'est parfois plus difficile. Mais priez pour nous qui sommes vos dirigeants, pour que vraiment ces traits de caractère-là ils grandissent en nous. Le deuxième sujet, c'est prions pour que nous ayons tous, non seulement nous qui vous enseignons, mais aussi vous, que nous ayons une attache inébranlable à la vérité biblique. Pour nous, vos prédicateurs, vos dirigeants, mais aussi pour les personnes qui s'occupent des groupes de femmes, pour les personnes qui s'occupent du groupe d'hommes, pour les personnes qui s'occupent de vos enfants à l'école du dimanche, ils ont besoin du même attachement. Et croyez-moi, plus tôt l'erreur rentre, plus dur c'est de la faire sortir. Vous ne voulez pas que les personnes de l'école du dimanche disent des bêtises à vos enfants. Que vraiment le Seigneur nous aide à rester attachés à cette vérité biblique. Tous, pas juste le pasteur ou les prédicateurs, tous ceux qui ont une tâche d'enseignement dans l'Église. Même quand on va visiter une personne de manière tout à fait naturelle et qu'on échange sur la parole et qu'on s'encourage, soyons attachés à la vérité. Parce qu'on est aussi responsable de ce qu'on dit dans nos 1 à 1, dans nos entretiens, dans nos visites. Devant Dieu, on rendra aussi compte de ça. Ce n'est pas fait pour vous faire peur. C'est juste pour dire qu'on est toujours tous responsables de rester attachés à la vérité. Et c'est vrai que nous qui avons un rôle d'enseignant particulier, on sait qu'on sera jugé plus durement que le reste. Alors priez pour nous aussi pour cela, pour que nous n'ayons pas à rougir le jour où nous nous présenterons devant Dieu. Et pour finir, prions aussi pour qu'il y ait de l'ordre dans l'Église. Si nous souhaitons grandir dans la foi, alors allons vers nos enseignants dans l'Église. Moi, je suis parfois frappé de combien les chrétiens dans nos églises vont chercher des enseignements partout, sauf auprès de leurs pasteurs et des autres enseignants. Je vous rappelle les paroles d'Éphésiens 4, où l'apôtre Paul dit que Dieu a fait don à l'Église des apôtres, des prophètes, des enseignants, pour que les chrétiens puissent grandir et atteindre la maturité et ressembler à Christ. Alors, je ne dis pas qu'on ne doit jamais rien lire ou rien écouter qui soit extérieur à notre Église. Mais si vous avez des questions, si nous avons des questions, c'est d'abord à nos dirigeants qu'on est appelé à s'adresser, pas à l'extérieur. Pas à l'extérieur. Moi-même, j'écoute des choses sur Internet, je lis des choses, beaucoup. Mais quand j'étais pas responsable d'une Église, Quand j'avais des questions, je suis toujours allé d'abord vers mes enseignants parce que j'avais confiance en eux. Et ça fait partie de ce pourquoi je voudrais que vous puissiez prier aussi, pour que vous ayez confiance dans vos dirigeants si ce n'est pas le cas. Et si ce n'est pas le cas, c'est vraiment triste. C'est malheureux quand on n'a pas confiance dans ses dirigeants. Et si c'est le cas, venez nous voir aussi pour qu'on comprenne pourquoi vous n'avez pas confiance en nous et en nos enseignements. Parce que ce n'est pas une situation bonne et normale. Prions pour l'ordre, pour la confiance. Et prions aussi pour quelque chose, alors qui n'est absolument pas populaire dans notre génération, mais prions pour apprendre à être soumis à nos responsables. Des responsables les plus jeunes jusqu'aux responsables les plus anciens. Prions pour être soumis à eux, parce que l'autorité ne vient pas de leur âge ou de leur qualification. L'autorité vient de l'appel de Dieu sur leur vie et de la qualification qu'il leur a donnée particulièrement. On n'a pas envie de se trouver devant Dieu et de devoir justifier de pourquoi est-ce qu'on a refusé de se soumettre à ceux qu'il nous avait donnés. Ce n'est pas toujours simple et je le comprends, je le conçois. Moi-même, dans ma vie, j'ai parfois eu du mal à me soumettre, mais ça a toujours été bénéfique pour moi. Et j'aimerais que ça puisse être bénéfique pour vous aussi. Parce que moi, j'ai envie qu'on vive une église heureuse ensemble. Moi, j'ai envie que vous ayez confiance en moi et dans mes frères qui vous apportent la parole. Que vous ayez confiance dans les femmes qui s'occupent de vous. Que vous ayez confiance dans les personnes qui s'occupent de vos enfants à l'école du dimanche. C'est trop triste lorsqu'il n'y a pas cette confiance, parce que c'est eux, ces personnes-là qui ont été données par Dieu à l'église pour que chacun puisse grandir et devenir mature à l'image du Christ. Alors ne nous privons pas de cela. Je vais simplement prier pour terminer. Père éternel, c'est vrai qu'à la lecture de ces passages, on peut se dire que c'est vrai, il y a des exigences qui sont élevées. Et d'une certaine manière, c'est normal qu'elles soient élevées parce que c'est pour s'occuper de ta famille. Mais en même temps, nous voyons que toutes ces choses que tu demandes, c'est ton esprit qui les crée en nous. Ainsi, je te prie pour que nous qui sommes responsables dans l'Église, nous que tu as appelés à la direction, que tu nous rendes toujours plus capables et toujours plus dignes, que tu nous transformes toujours plus par ton Esprit Saint pour que nous soyons comme ces personnes que Tite devait rechercher sur l'île de Crète. Si certains d'entre nous, nous nous écartons peut-être parfois à un moment ou quoi que ce soit, eh bien que tu nous le fasses savoir. Nous ne voulons pas demeurer dans l'erreur s'il y a de l'erreur. Nous ne voulons pas être dans une rébellion envers toi si on ne se rend pas compte. On ne veut pas enseigner des choses qui ne seraient pas vraies ou avoir des traits de caractère qui ne seraient pas bons. On te prie pour que tu aies pitié de nous, pour que tu nous aides. Et je te fais cette prière non seulement pour nous qui sommes les prédicateurs de l'Église, pour moi qui suis le pasteur, mais aussi pour toutes les autres personnes que j'ai citées précédemment et qui enseignent. Et je te fais cette même prière, vraiment Seigneur, pour chacun d'entre nous, que tu nous transformes par ton Esprit Saint, que nous portions le fruit de l'Esprit. C'est possible, ça ne dépend pas juste de notre bon vouloir, mais c'est ton Esprit qui le fait. Mais si on le veut et qu'on te le demande, tu ne vas pas nous le refuser. Qu'on ait le désir de porter ce fruit de l'Esprit. Je te remercie pour ceux que tu as appelés à être dirigeants aujourd'hui dans ton Église. Je te remercie pour ceux qui étaient avant, notamment pour Roger, qui t'a servi fidèlement ici, pour tout ce qu'il a fait avec son épouse et avec toutes les personnes des conseils de l'Église précédente. Je te remercie aussi pour tous ceux que tu vas appeler plus tard à être des dirigeants dans ton Église, ici ou ailleurs, dans ce pays ou dans d'autres pays. Je te remercie parce que toi, tu qualifies ceux que tu envoies, tu accompagnes, tu aides ceux que tu envoies et on n'est jamais laissé ou dépourvu tout seul ou quoi que ce soit. Merci pour ta grandeur, pour ta bonté, pour ton amour. Rends-nous dignes de ce service pour toi, par ton esprit. Amen.